C'est parti pour une escapade d'une heure à la rencontre de Nantaises et Nantais venus d'ailleurs. Casser les stéréotypes, voyager, éduquer et mettre en avant des parcours singuliers, c'est ce que vous propose notre joyeuse petite bande. Installez-vous bien, Nantaises et Nantais d'ailleurs, c'est maintenant sur Prune 92 FM.
Aurélia Ringard, aujourd'hui on est ravis, en tout cas j'aurais dit de te retrouver autour de la table des Nantaises et Nantais d'ailleurs, mais on se retrouve dans le centre-ville nantais autour d'une table pour parler de ton adoption de Nantes ou l'adoption que Nantes a faite de toi. Tu es Nantaise d'adoption depuis bientôt 3 ans. Tu animes l'atelier d'écriture mots à la Nantaise depuis bientôt 2 ans. Et nous venons aujourd'hui discuter de ton parcours nantais, mais aussi de ton nouveau livre que tu as publié en juin 2021, qui s'intitule « Jour bleu ». Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une petite tradition à la table des Nantaises et Nantais d'ailleurs, qui voudrait qu'on établisse ta nantitude. Un petit clin d'œil à Patrick, toujours. Alors, la première question qu'on pose, c'est... comment ou pourquoi est-ce que tu es arrivée à Nantes et qu'est-ce qui t'a amenée à Nantes ?
Alors, bonjour, alors moi je suis née à Guingamp dans les Côtes d'Armor en Bretagne où j'y ai vécu 18 ans jusqu'au bac et je suis arrivée à Nantes justement pour la première année de mes études. On aura peut-être l'occasion d'en reparler mais il se trouve que j'ai fait des études dans le domaine de la santé, des études de pharmacie, donc scientifique. Et je suis ensuite partie à Paris pendant une dizaine d'années avant finalement de reposer mes valises à Nantes il y a 3 ans. Donc finalement je suis une Nantaise par petite tranche de vie comme ça, 5 ans de vie étudiante puis là 3 ans de vie adulte, si on peut dire ça comme ça.
Je confirme, tu es adulte.
Merci, j'espère, j'essaye en tout cas. J'essaye aussi de maintenir une part d'enfance, mais de mêler en tout cas les deux. Mais donc j'ai retrouvé Nantes, oui, il y a 3 ans, et j'essaye de par les ateliers, de par le quotidien, de me réinsérer dans cette ville et de me réimprégner en tout cas de son atmosphère et de sa culture.
Et je demande aussi souvent cette question, je pose cette question souvent parce que je me dis Nantes que j'ai découvert n'est pas Nantes que tu as pu connaître pendant tes séjours nantais ou tes études nantaises. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi entre le Nantes que tu as connu avant et celui que tu as redécouvert quand tu étais plus jeune, tu étais étudiante, peut-être avec un état d'esprit différent, pas les mêmes intérêts, et aujourd'hui en tant que femme, maman aussi si je ne m'abuse, comment est-ce que votre expérience, ton expérience de Nantes maintenant diffère du Nantes que tu as connu avant ?
Oui, c'est vrai que je le vis différemment, mon rapport à cette ville. Alors sans doute déjà parce que c'est pas la même le même statut, la même tranche de vie. Alors ça va peut-être te surprendre, mais j'ai peu de souvenirs des 5 années que j'ai passées, donc il y a 15 ans. Je sais que je passais beaucoup de temps au cinéma. et aussi j'étais assez absorbée par mes études, donc finalement j'avais une vie... assez austère, ce qui a été à l'opposé de mes années de vie parisienne derrière. Et quand je suis revenue, donc là ça fait 3 ans maintenant que je suis là, et finalement j'ai pris plaisir à redécouvrir la ville, mais comme si c'était une première fois. Et j'ai eu l'impression finalement d'arriver dans une ville que je ne connaissais pas. Mais peut-être parce que moi-même j'avais évolué, changé, je parcourais les rues avec un autre regard et aussi parce que quand je suis arrivée il y a 3 ans, je ne connaissais plus personne. Donc il y avait tout à refaire en fait, enfin tout à faire tout simplement.
Alors parlons-en de Paris, parce que traditionnellement aussi on aime bien taper sur les Parisiens. on va t'obliger à choisir entre Nantes et Paris, non je taquine, mais qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie, en quittant Paris, venant à Nantes, qu'est-ce qui te, déjà, te manquerait le plus en termes de la vie parisienne, que tu ne retrouverais peut-être pas à Nantes? Et l'inverse aussi, qu'est-ce que tu as découvert à Nantes que tu n'avais pas à Paris? Si jamais il y a quelque chose que tu as découvert pour l'instant.
Alors, il se trouve que mon histoire, elle fait que mon déménagement de Paris, il est lié à une grosse phase de changement pour moi. Pour résumer, j'ai changé d'activité professionnelle, j'ai changé de statut dans ma vie personnelle. Donc j'ai fait table rase, j'ai vraiment tourné une page en fait quand j'ai quitté Paris. C'est comme j'ai quitté. Quand j'en parle, le fait d'avoir quitté cette ville, c'est comme une rupture amoureuse. Et Paris, j'avais ce rapport un peu ambigu avec cette ville. C'était un peu je t'aime moi non plus. J'avais une sorte de fusion et parfois de détestation. Donc et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir autre chose et que je change mon regard en fait. Et pour l'anecdote, avant de poser mes valises à Nantes, j'ai voyagé un petit peu dans travers le monde. Et pour marquer le coup de façon très symbolique, je suis allée au bout du monde, parce que je suis allée en Océanie. J'ai été en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, et quelques mois, pour faire une sorte de vide. Et de remettre un petit peu les compteurs à zéro. Donc, j'ai oublié ta question.
En fait, c'était qu'est-ce qui te manque de Paris ? Mais t'écouter, en tout cas, en parlant de Paris, ça me fait un petit peu penser à un premier amour un peu tumultueux où on s'aime, mais on s'écharpe. Et après, on dit, OK, peut-être on va arrêter les bêtises. Soit on se sépare, soit on fait mieux.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense que j'ai entretenu avec cette ville le même rapport que j'ai pu entretenir d'ailleurs dans des relations amoureuses. Donc donc j'ai pas de manque parce que j'ai vécu 10 belles années là-bas à Danse et que à Nantes j'avais envie d'autre chose. Donc c'est comme si j'avais une autre vie en fait. Enfin c'est deux parties de ma vie qui sont très différentes et que je suis heureuse de connaître, enfin d'avoir voilà de connaître ces deux phases là. Et aujourd'hui à Nantes je suis devenue maman aussi entre temps, donc j'ai créé les ateliers, donc j'ai un quotidien qui ne ressemble pas du tout à celui que j'avais à Paris, donc j'ai pas un manque particulier parce que j'ai plus les mêmes aspirations peut-être.
Et est-ce qu'il y a un élément, par exemple, qui t'a surpris en arrivant à Nantes en disant tiens, j'imaginais pas ça? Et je rajouterais même la question, pourquoi Nantes? Est-ce qu'on a choisi comment on dit en français une dart, une flèche et on a balancé sur une carte de la France.
Oui, alors je voulais me rapprocher de la mer. Je voulais quand même une ville pas trop loin de la mer. Et c'est vrai que de par mes origines et je voulais me rapprocher de ma famille aussi. Je pense que ça correspondait aussi à une phase de ma vie et mes parents, mon frère étant pas très loin, le choix a été quand même assez facile.
Je vais poser la question que j'ai posée à l'un de nos invités récemment, Claude. Il est aussi de Bretagne. Et je lui demande pourquoi est-ce que alors on choisit pas la Bretagne tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit quand même Nantes c'est la meilleure option entre les deux? Pas du tout pour clasher la Bretagne.
Oui, peut-être que la Bretagne sera une prochaine étape, tu sais, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Mais Nantes, parce que je trouve que ça allie quand même à la fois une vie citadine, une vie à proximité de la mer, comme je te le disais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi le vignoble nantais qui n'est pas très loin, donc la campagne est plutôt belle. Enfin, on peut assez facilement, en un temps restreint... selon nos aspirations du moment, à faire soit de la ville, soit de la campagne, soit un bord de mer, donc c'est assez agréable.
Très bien. Eh bien, je te propose, Aurélia, de faire une courte pause musicale. Et quand on revient, on va parler des ateliers, les mots à la nantaise.
Fixement, le ciel se tord. Ma vie.
In two lives that's due to notice mine, I know I will say goodbye. But a fraction of this life I would give anything, anytime.
Vous écoutez Nantaises et Nantais d'ailleurs sur Prune 92 FM.
Rebonjour Aurélie Ringard, nous sommes toujours sur Prune 92 FM à la table des Nantaises et Nantais d'ailleurs et on parle de ton parcours de Nantaise depuis bientôt 3 ans et on va arriver bien évidemment à ton premier roman Jour Bleu publié en juin 2021. Mais avant d'arriver à ton bébé, si j'ose dire, ton deuxième bébé, je reviens sur les ateliers d'écriture que tu animes depuis bientôt 2 ans, les ateliers auxquels moi-même j'ai pu assister, participer, que j'ai trouvé fort intéressant, fort riche en émotions aussi. Je veux te demander en premier, qu'est-ce qui fait que tu es tombée amoureuse de l'écriture et si un petit peu indirectement aussi de la littérature ?
L'écriture, ça a toujours été pour moi mon moyen d'expression, peut-être le plus naturel. Si je suis très honnête, quand j'étais plus petite et encore peut-être encore maintenant, je disais j'écris parce que je sais pas parler. Et en même temps, j'avais un besoin de m'exprimer. Donc comme je suis pas quelqu'un d'extrêmement extraverti, mais que quand même j'ai des choses à partager, à transmettre, enfin à poser sur le papier, voilà, l'écriture est venue comme la solution la plus évidente pour quand même m'exprimer. Et c'est sans doute lié à une partie de mon histoire. Enfin, ça m'est venu très jeune. J'ai un rapport à l'écrit qui m'est venu au moment où j'ai appris à lire. Donc, tu vois, ça doit être quand j'ai autour de 6 ans, 7 ans. À partir du moment où j'ai découvert la lecture, ça a quand même été une ouverture assez incroyable pour moi. Et je ressentais beaucoup d'émotions à la lecture de certains textes, et je me disais c'est génial d'être capable avec rien, c'est-à-dire avec des mots, de créer chez l'autre, chez le lecteur, un tel panel de ressentis, et j'ai peut-être au fond de moi toujours rêvé d'être capable de faire la même chose, enfin, c'est-à-dire avec ce seul matériau que sont les mots, d'être capable de générer chez l'autre des émotions.
Comment vit-on le transfert, ou en tout cas la transition plutôt du rôle déjà de personne qui aime écrire, qui aime la littérature, à un rôle de celle qui écrit déjà, je ne sais pas si tu utilises écrivaine ou auteur, et pour ensuite aussi aider les autres à écrire, parce que sur la dimension des ateliers, c'est vraiment aider les autres dans leur processus de création.
Oui, c'est vrai. Alors, il se trouve que dans mon parcours, j'ai moi-même participé à de nombreux ateliers d'écriture j'allais dire, je suis un peu tombée dedans et devenue assez accro à ces sortes de lieux vraiment à part entière. Et quand je suis revenue à Nantes, comme on le disait tout à l'heure, j'ai voulu me retrouver un petit peu ces ambiances-là, et dans ma réflexion, je me suis dit je vais le faire moi-même, je vais les créer moi-même, parce que j'avais une idée très précise de l'ambiance que je voulais créer et des vertus que ça pouvait amener chez les autres, l'ayant vécu moi-même. Et en fait, peut-être que ça fait partie du processus que d'avoir un jour traverser une expérience, j'allais dire, et d'avoir envie de partager certaines choses apprises, et surtout quand ça nous a fait du bien, on a envie de le partager, et le fait de le partager, ça démultiplie encore plus cette sensation. Donc c'est un peu comme ça que j'ai créé les mots à la Nantaise, donc mes ateliers d'écriture, et en m'apercevant et en le faisant, en m'apercevant que je prenais beaucoup de plaisir, de satisfaction à voir les réactions des uns et des autres, de celles et ceux qui franchissent les portes des ateliers, à voir la satisfaction sur leur propre visage une fois qu'ils ont créé un texte, une fois qu'ils l'ont lu, partagé avec les autres. C'est une histoire de rencontre, en fait, un atelier d'écriture. C'est ça qui me plaît.
On disait ça tout à l'heure, que ce thème presque informel s'est un petit peu imposé aussi aux Nantaises et Nantais d'ailleurs cette saison, parce que, en fin de compte, toutes les personnes que nous avons invitées avaient un petit peu ce thème sous-jacent, et on se disait que c'était peut-être aussi, vu le contexte sanitaire que nous avons vécu et que nous vivons toujours, il y a peut-être un petit peu de volonté de rencontre dans la tête de tout un chacun, et aussi de se rendre compte qu'on se rencontre en rencontrant les autres. J'entendais un philosophe, je ne me rappelle plus de son nom, Charles Pépin, qui disait à la publication de son nouveau livre de philosophie qui s'intitule La Rencontre, que ce n'est qu'en rencontrant les autres qu'on se rend compte soi-même. C'est vrai qu'on ne se définit soi-même qu'en se rendant compte que autrui existe, et que parce que autrui existe, en réalité, puisque nous ne sommes pas les mêmes, ça nous oblige de savoir qui on est et ce qui fait la différence entre soi et l'autre. Donc je trouvais ça assez intéressant qu'il y a presque un thème qui est un petit peu partagé par tout le monde, directement et indirectement. Alors je reviens aux ateliers d'écriture. Ce n'est pas anodin, l'atelier s'appelle « Les mots à la nantaise ». La première question qui est difficile, tu te sens nantaise, Aurélia ?
Oui, et c'est vrai que j'ai choisi ce nom-là. C'était aussi une volonté de m'ancrer dans cette ville, en fait, et de participer à ses activités, en fait. Et le fait d'avoir créé ces ateliers, le fait qu'ils m'ont apporté énormément de rencontres, de différents projets, justement, autour de l'écriture et de la littérature, dans différents lieux à Nantes, dans différents quartiers. C'est ça qui me fait sentir nantaise, et ça prend un peu de temps. Ça fait 2 ans que les ateliers ont été créés, et je dirais que là ça fait bien peut-être un an, même quelques mois, en fait, que je me sens, depuis la rentrée là, où je me dis tiens, je sens de nouveau ce sentiment d'appartenance à un lieu, mais parce que j'y ai peut-être déployé certaines énergies et que je commence à mieux connaître le lieu, mais surtout ses habitants, en fait.
Dans les ateliers, il y a différents thèmes, notamment je pense à l'enfance, je pense à la vie, je pense à l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit ces thèmes-là ? Est-ce que ce sont des vecteurs plus importants pour les émotions ? Ou est-ce que ce sont des thèmes où on se dit, en fait, on peut écrire de tout, donc pourquoi pas de ces thèmes-là ?
Oui, alors c'est vrai que j'ai créé un cycle d'ateliers thématiques. Alors pour aussi te donner d'autres exemples, et même sur la saison qui va arriver là au premier semestre 2022, j'ai proposé une journée d'écriture sur les émotions, sur la famille, la rencontre, on en reparlait, le voyage également. Et en fait, ce sont les grands genres littéraires. Si tu regardes n'importe quel roman en littérature française ou en littérature étrangère, il y a un thème majeur qui se dégage, qui peut être une histoire d'amour, une histoire un secret familial, ou un récit de voyage. Donc ça, c'est des grands genres littéraires, et finalement je m'inspire de ça pour le proposer en atelier. Donc c'est aussi une façon, moi, d'arriver avec des références, enfin des textes en modèle. Mais c'est un peu, finalement, si je suis très honnête, je pourrais dire aussi que c'est une sorte d'excuse. C'est-à-dire que, du coup, je suggère aux participants une proposition d'écriture qui a un lien avec le thème qui était affiché. Mais quelque part, je sais aussi pertinemment que la proposition d'écriture, elle est là pour impulser le désir d'écrire, mais je laisse évidemment toute liberté aux hommes et aux femmes qui sont autour de la table pour écrire ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent. Et en plus, je pense que sans le savoir, les participants arrivent avec en eux l'histoire qu'ils vont écrire. Ils le savent pas encore, mais l'histoire, elle est déjà là. Et la proposition d'écriture, elle est simplement faite pour impulser ce qu'ils ont déjà en eux.
Tu évoques l'impulsion, et je te confiais que moi, la chose qui m'a le plus marquée lors des ateliers, c'était que j'avais un temps limité pour produire quelque chose, et que j'avais presque le luxe, la liberté. J'étais libérée de réfléchir, et ça sortait naturellement de ma personne, et qu'il y avait quelque chose d'assez libérateur en imposant des contraintes. Et est-ce que c'est une méthode classique des ateliers d'écriture, et pourquoi cette option-là comparée à peut-être venir avec un texte qu'on veut juste partager, parce qu'à la fin des temps écoulés, on partage aussi ce qu'on a produit avec l'ensemble des participants.
Mais tu as parfaitement raison de dire que en atelier d'écriture, en tout cas, la contrainte libère. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est partagé par tous les participants qui sont venus. Et c'est deux choses différentes, d'écrire avec un temps limité en groupe, enfin avec un groupe autour de soi, que chez soi, seul, avec un temps illimité. C'est vraiment deux travails différents. Quand on est en atelier d'écriture, donc il y a un temps qui reste assez court, hein, on peut écrire peut-être 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, mais pas beaucoup plus, mais ça reste un temps quand même assez court d'écriture. Et donc forcément, on n'a pas d'autre choix que d'écrire ce qui nous vient spontanément. Et tu l'as bien dit, c'est-à-dire que tu es libéré de réfléchir. C'est génial comme formule. Donc ça montre aussi à quel point, en fait, le reste du temps, on passe notre temps justement à se casser la tête, à essayer de réfléchir mille fois avant d'agir et au fond, à se dire comment je vais réussir à faire quelque chose de spontané. Arrêter de réfléchir et laisser place au spontané. Et le fait d'avoir un temps court nous contraint à ça.
Eh bien, beaucoup moins spontanément, je te propose, Aurélia, de marquer notre seconde pause musicale et pour ensuite revenir pour parler de ton livre, Jour Bleu, publié en juin 2021.
I wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here. Something in somebody's life.
Vous écoutez Nantaises et Nantais d'ailleurs sur Prune 92 FM.
Nous sommes toujours sur Prune 92 FM. Vous écoutez les Nantaises et Nantais d'ailleurs. Et notre invitée d'aujourd'hui, Aurélia Ringard, nous parle enfin de son livre Jour bleu, qui raconte l'histoire d'une jeune femme, une femme qui a rendez-vous avec un homme. Et elle est posée à la gare de Lyon pour attendre cette personne. Et on découvre un petit peu en juxtaposant passé, présent. Je ne sais pas s'il y a le futur. En découvrant un petit peu des moments de sa vie, des moments de vie et des moments de rencontre, justement. Je résume correctement.
Très bien, merci pour ta lecture. C'est
exactement ça. Alors, je vais commencer premièrement en disant d'où est venue l'histoire. Moi, je sais, parce que j'ai un petit peu lu la présentation de l'œuvre, mais dis à nos auditeurs et auditrices, d'où est née cette histoire?
Alors l'histoire du roman, tu vois, on parlait des ateliers d'écriture, et ben c'est un texte que j'ai initié moi-même en tant que participante à un atelier d'écriture. Et un jour, l'animateur dépose sur la table une photo en noir et blanc d'un quai de gare. Et il se trouve que moi, ça a révélé énormément de souvenirs. Et j'ai écrit un texte sur une scène d'adieu sur un quai de gare. Et je l'ai partagé avec le groupe, donc je l'ai lu à voix haute. Et il s'est passé quelque chose. Il y a eu un silence et à la fois des encouragements de la part des autres personnes qui étaient avec moi que j'avais jamais eu. Et je me suis dit, bah tiens, enfin, ça a été un déclic. Et j'ai voulu après creuser ce sujet-là et je me suis dit c'est ça qu'il faut que j'écrive en fait, il faut que j'arrête de tourner autour du pot et de chercher autre chose, une histoire rocambolesque qui avait mille aventures, c'est non, en fait c'est pas du tout mon créneau, donc mais par contre prendre un train je sais faire, il se trouve que dire au revoir à des gens sur des quais de gare, j'ai fait ça toute ma vie, donc en fait je vais écrire ce que je crois connaître et de là est née l'idée au départ de justement de rattraper ces scènes-là où on se dit au revoir, que ce soit un couple ou une famille, enfin tous les schémas possibles, mais il y a un membre de la famille ou un des deux membres du couple qui s'en va et l'autre reste tout penaud sur le quai et avec en tête un milliard de mots doux, de mots d'amour, de mots de remerciement, mais qu'il n'a pas été capable de dire en fait et qu'il a gardé avec lui. Et je voulais rattraper ces scènes-là en faisant parler mes personnages. Donc ça, c'était mon premier souhait d'écriture. Et du coup, j'avais fait une première version du texte avec plein de ces petites scènes-là où je faisais parler l'héroïne qui s'est dessinée au fur et à mesure de l'écriture, mais cette héroïne et où elle se rattrapait un petit peu en avouant peut-être tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire à tous ceux qu'elle avait quittés.
En t'écoutant, je pense à un de mes passe-temps spontanés, qui est à chaque fois que je suis en gare, même à table, dans un restaurant, quand je suis seule, je regarde les gens passer et je leur écris une vie. C'est-à-dire que parfois, j'essaie d'imaginer comment ils sont juste avant de dormir, à quoi, est-ce qu'ils sont en train de lire, ou est-ce qu'ils sont avec leur tablette, ou est-ce qu'ils se sont pris la tête avec sa femme le matin, est-ce que son fils est à la fac, mais il ne travaille pas, donc il ne sait pas ce qu'il va devenir et qu'il a peur. Donc c'est vrai que je trouve que la gare, en tout cas les lieux de séparation et de départ, ou d'arrivée d'ailleurs, sont très propices au moment fort, parce qu'on... Il y a presque une urgence pour créer un moment, pour créer quelque chose, parce qu'on sait quand la personne part, on ne sait pas quand elle revient, ou on sait quand elle arrive, mais on ne sait pas quand elle va partir. Donc il y a presque une bulle, une bulle en français, on dit, qui est suspendue dans le temps. Donc c'est vrai que je peux très bien voir pourquoi ce serait propice à la création. Et comment est-ce que cette idée... cette première version, elle a connu sont... Parce que quand tu présentais ton livre sur ta page, tu as écrit « Venu au monde ». Et il y a une première naissance quand on pose les mots sur le papier. Et après, il y a la deuxième naissance qui est quand elle est publiée. Comment s'est passée cette aventure pour publier ton œuvre ?
Oui, alors il y a plusieurs questions dans ta, dans ta réflexion. En fait, déjà, pour revenir sur l'écriture du texte, donc je trouve aussi, j'ai été fascinée par les gares, comme toi, donc ces lieux de transition, et ces lieux aussi de temps fugace, en fait, parce que comme tu dis, qu'on soit voyageur, ou qu'on soit en attente de quelqu'un, ou qu'on se sépare de quelqu'un, il y a c'est éphémère, c'est vraiment, je trouve, le symbole de l'impermanence, en fait, de l'existence, et c'est des moments que je voulais capter, et qui me renvoyait moi-même à ma propre expérience quand j'étais enfant. Je voyageais tous les week-ends pour aller du domicile maternel au domicile paternel. Et en fait, du coup, j'avais le vendredi soir et le dimanche soir, 1h30 de train. Et ça a duré plus de 10 ans. Et j'avais un temps vide. Et à l'époque, les trains régionaux en France, c'était des grands compartiments. C'était pas juste des sièges, tu sais, deux par deux. Il y avait des compartiments où il y était peut-être 10 personnes, enfin 8 personnes dans chaque compartiment. Et en fait, je passais mon heure et demie à observer les gens et à écrire sur eux. Ils le savaient pas, mais en fait, je sortais un carnet et je leur inventais des vies. Je faisais comme toi, tu vois. Et je me demandais qu'est-ce qui faisait que cet homme-là voyageait seul un vendredi soir, il m'avait l'air perdu dans ses pensées, ou alors qu'est-ce qui fait que l'autre enfant qui était en face de moi, si ça se trouve, il avait la même histoire familiale que la mienne. Là, ce couple, ils sont en train de se disputer, pourquoi ils se disputent. Enfin, j'étais déjà assez fascinée aussi par des scènes du quotidien, en fait. C'est banal et en même temps c'est extraordinaire, et je trouve que ça mérite d'être écrit, en tout cas d'être pensé, et donc j'ai écrit ces scènes là et au fur et à mesure de l'écriture il m'est venu aussi l'idée que ce serait de mettre en scène en fait une femme qui attendrait un homme, et pendant le temps de cette attente, donc où elle est au café de la gare, elle attend l'homme qu'elle désire, qu'elle aime. Elle revoit certaines scènes. Oups, on est dans un café. Il y a des.
Ça, c'est le signe qu'il faut rentrer chez soi.
c'est les aléas du direct. Donc elle observe en fait chaque scène dans ce café, ça la renvoie elle-même à sa trajectoire. Mais en même temps, ça me permettait d'explorer aussi tout le registre du désir amoureux, qui est aussi infini en termes d'exploration et de mise en mots. Et ça me permettait de faire des va-et-vient entre passé et présent, et qu'est-ce qui fait que tout ce qu'on a vécu nous amène à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, je suis assez fascinée par cette question-là. Est-ce qu'il y a... Quelle est la part du hasard ? Quelle est la part de nos choix ? Quelle est la part de... Enfin, l'impact de nos rencontres sur nos propres vies ? Voilà. Et du coup, de par ce procédé, j'essayais en tout cas d'aborder ces questions-là dans le livre.
Et en lisant en tout cas le résumé du livre... J'ai pensé à un autre livre que j'avais lu qui s'appelle Le Rendez-vous. Je ne me rappelle plus de l'auteur, il faudrait que je regarde. Et c'était... Elle avait rendez-vous avec quelqu'un, mais c'était plus un prétexte pour qu'elle ait rendez-vous avec elle-même. Et c'était un petit peu ça qui me venait en tête en lisant un petit peu le résumé de Jour Bleu. Et tu n'as toujours pas dit comment est-ce que la rencontre s'est faite entre toi et l'éditeur.
Oui, pardon. Alors, il se trouve que j'ai envoyé toute penaude mon manuscrit par la poste à plusieurs éditeurs, sans forcément avoir de réponse, ou j'ai aussi reçu des réponses négatives. Ça fait partie du jeu ou du risque, je ne sais pas. Et puis un jour, après plusieurs mois quand même de recherche et puis d'envoi, j'ai reçu un appel donc de la maison d'édition. Frison Roche Belles Lettres, qui avait lu mon texte et qui m'a dit d'emblée qu'elle était intéressée par le publier. Et là, j'ai eu un peu l'impression de vivre je sais pas, comme dans un film ou dans un rêve, enfin je savais plus trop si c'était réel ou pas, tellement j'avais rêvé de ce moment là enfin je l'avais rêvé sans à la fois sans oser y croire, et en même temps il fallait pour passer des heures, si ce n'est presque un an et demi de travail sur un même texte, il faut une certaine foi. Enfin, finalement, il faut quand même croire un peu à ce qu'on fait pour y passer autant de temps. Et en même temps, c'est comme un Saint Graal qui devient un jour un peu réalité, quoi.
Qu'est-ce qui passe dans sa tête quand on voit son livre en version papier, imprimée? Sa troisième naissance presque. Comment est-ce qu'on, quand on touche son livre dans sa version finale, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qu'on ressent?
Eh ben, pour tout te dire, je crois que j'ai encore du mal à réaliser. Des fois, je le prends ou je le vois en librairie, ou j'ai des lecteurs, lectrices qui m'envoient par les réseaux, j'ai reçu des photos de mon livre entre des mains de lecteurs ou dans des rayons de librairie. J'ai du mal à croire que c'est mon nom, enfin que c'est, et c'est peut-être bien comme ça en fait. C'est pas plus mal de pas de pas réaliser, parce que comme ça, ça me je ne prends pas complètement trop au sérieux, et au moins je garde une certaine distance avec l'événement. Mais c'est un peu, ça peut paraître un peu contradictoire, parce qu'en même temps j'ai l'impression que c'est une autre personne que moi-même, dont le nom est apposé noir sur blanc sur un objet qu'on peut tenir dans les mains. Et en même temps, si je refeuillette le texte, j'ai l'impression que je le connais par cœur, tellement je l'ai vu, enfin réécrit et retravaillé. Et c'est certainement le texte où je me livre le plus, enfin où j'ai tenté d'être le plus sincère et d'être le plus moi-même, en fait. Donc,
Et est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu prenais un nom de plume ou pas?
Oui, je me suis posé la question. Et en fait, non. J'ai rapidement éludé cette question, parce que justement... le fait d'écrire, ça, c'est pour moi, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment pour moi une façon d'être au monde et de prendre ma place. Et ça m'a pris un certain temps d'assumer ça. Et du coup, je tenais à ce que ça soit mon vrai nom, parce que j'ai pas envie de me remettre un autre masque, en fait, et d'être quelqu'un d'autre. Et mon nom, il fait partie de moi, donc de mon histoire. Et donc, j'avais envie de me livrer tel que je suis.
Je trouve que c'est un bon moment pour clore notre échange. J'ajouterais que sur cet élément-là, c'est assez marrant comment nous vivons l'aventure d'écrire très différemment. Parce que pour moi, je n'envisage que d'écrire sous un autre nom. Parce que j'ai comme l'impression que c'est le seul moyen pour moi de véritablement occuper la place, en me libérant de regard des autres et me libérant presque de mon propre regard, en me disant c'est quelqu'un d'autre qui écrit, donc c'est quelqu'un d'autre qui fait. Donc je trouve que ce sont deux manières complètement différentes d'habiter le monde, d'occuper l'espace, et c'est très intéressant, et je trouve que ça fait la richesse aussi de l'approche de la création et de l'écriture. Merci beaucoup Aurélia Ringard d'être venue à la table Nantaise et Nantais d'ailleurs, et comme vous le savez maintenant, bien entendu, nous nous retrouvons tout le deuxième dimanche de chaque mois. Et si nous vous manquons d'ici là, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur www.prune.net. Au revoir.
Nasceu boi uma estrela que cata brilhar, lina mar boi uma areia que cata molhar, espalhar nesse mundo fora, só vai te amar. terra por cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra sa cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra por cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra por cheia de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que canta brilhar, pina mar, boi uma areia que canta moiar. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra sal cheia de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra por cheia de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Estrela que canta brilhar, lina mar, boi uma areia que canta moiar. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra sal cheia de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra por cheia de amor, tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. estrela que canta brilhar e na mar boia uma areia que canta moiar espanhol nesse mundo fora só rote mar teve pouco cheio de amor tem morna, tem coladeira terra sal cheio de amor tem batu, tem funaná espanhol nesse mundo fora só rote mar terra pouco cheio de amor tem morna, tem coladeira terra pouco cheio de amor tem batu, tem funaná petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.